catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur.
Bonjour à vous tous, auditeurs et internautes de Radio Maria. Bienvenue à cette catéchèse du Père Directeur. Vous le savez, tous les vendredis, c'est la catéchèse interactive. Mon Père, bonjour.
Bonjour Ekaye, bonjour à toutes, bonjour à tous, hein, joyeux Noël.
Joyeux Noël à vous tous, auditeurs et internautes de Radio Maria. Nous sommes en direct en son, c'est-à-dire sur la bande FM que vous connaissez, 89.9 ou encore à travers le RM Play, donc l'application mobile, ou encore le www.radiomaria.cd, mais aussi en images. Vous pouvez suivre en direct cette catéchèse sur la page Facebook du Centre Biblique Mediapol. Merci à Baudelaire Madimba qui nous permet d'arriver chez vous. À lui, nous demandons le chant d'invocation à l'Esprit Saint. Merci à Baudelaire pour ce chant d'invocation à l'Esprit Saint. Nous rappelons que nous sommes en direct en images sur la page Facebook du Centre Biblique Mediapol. Mon Père, nous vous accordons la parole pour les résumés des enseignements suivis au cours de cette semaine.
Et merci beaucoup Ekaye, merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment et vous qui nous suivez sur la page Facebook du Centre Biblique Mediapol. Cette semaine a été dominée par des catéchèses sur Noël pour préparer nos auditeurs internautes à célébrer la fête de Noël. Nous avions proposé des catéchèses surtout sur l'évangile de Noël, c'est-à-dire de la messe dès la nuit, Luc 2, de 1 jusqu'à 14, et puis évangile de la messe du jour, Jean 1, de 1 jusqu'à 18 ans. Hein. Mais nous avions aussi lundi parlé de l'évangile du dimanche passé, c'est-à-dire quatrième dimanche dès l'Avent, qui portait surtout sur l'annonciation faite à Joseph, c'est-à-dire Matthieu 1, de 18 jusqu'à 24. Je voudrais, avant de donner la parole à nos auditeurs pour des questions, vous rappeler que chaque 25 décembre, hein, depuis Medjugorje, la Vierge Marie, elle donne un message annuel. Cette année, le message a été donné à l'un des voyants, Yaakov. Voilà les contenus du message de la Vierge Marie donné hier, 25 décembre, à Medjugorje. Et chers enfants, aujourd'hui, en ce jour de grâce, je vous invite tout particulièrement à ne pas suivre votre vie en tendant vers vos objectifs terrestres et à ne pas chercher la paix et la joie dans les choses de la terre, car de cette manière, votre vie est enveloppée de ténèbres et vous ne voyez pas l'essence de votre vie. Petits enfants, ouvrez la porte de votre cœur à Jésus. Permettez-lui d'envelopper toute votre vie afin que vous puissiez commencer à vivre dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Mes enfants, ce n'est qu'avec Jésus dans vos cœurs que vous connaîtrez le véritable but de votre vie et que vous tendrez vers le salut éternel. Je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Message approuvé par l'Église à travers le commissaire pontifical envoyé par le pape à Medjugorje. Alors, venons-en à l'évangile de Noël. D'abord, Luc 2, de 1 jusqu'à 14. Hein. La perspective de Luc est beaucoup plus historique parce que Luc parle notamment des personnages historiques hein, qu'il situe à l'époque de la naissance de Jésus notamment Quirinius, gouverneur de la Syrie, mais aussi Auguste César, qui était alors empereur de Rome. Et c'est dans ce contexte du recensement ordonné par Auguste César que Jésus va naître à Bethléem. On comprend pourquoi il est né à Bethléem, parce qu'ils habitaient à Nazareth, mais il fallait aller à Bethléem, qui est la ville de David, hein, pour le recensement, d'autant que son père adoptif était issu de la famille de David. Et c'est là que s'accomplira l'une des prophéties messianiques de l'Ancien Testament, qui situe la naissance du Messie à Bethléem, ou les origines du Messie à Bethléem, parce que le Messie est de la tribu de Juda, comme Jacob lui-même l'avait annoncé à ses enfants, et de la tribu de Juda est issu David, dont est issu le père adoptif de Jésus, c'est-à-dire Joseph. Alors pendant qu'ils étaient là, chose curieuse, c'est que bon, il n'y avait pas de place pour eux dans la maison. On comprend que c'est une maison très modeste, il n'y a que deux pièces, hein, comme la plupart des maisons des pauvres à l'époque de Jésus, une pièce commune où tout le monde doit dormir, chacun dans son petit coin. Et puis, au fond de cette pièce commune, il y avait une pièce encaissée, et c'est là où on gardait des animaux. Alors, c'est dans la partie encaissée de la maison où on gardait des animaux que Jésus va naître. Et sa maman va l'envelopper de linge et puis le déposer dans une mangeoire. Ça, c'est ce que Luc dit. Tout de suite, la révélation est faite aux bergers, c'est-à-dire aux pauvres, parce que Luc... dans son évangile, veut valoriser les pauvres. Hein. Voilà pourquoi ce sont les pauvres, les bergers, qui seront les premiers à accueillir l'annonce de l'incarnation, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Et ils vont se rendre à Bethléem hein, pour adorer celui qui est né. Et au retour, il y aura la chorale angélique à partir du ciel qui chante « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Donc, ce qu'on peut retenir, n'est-ce pas, de la messe de la nuit, cet évangile de Luc 2, de 1 jusqu'à 14, hein, c'est que d'abord, Jésus est né dans des conditions assez modestes, parce que Luc veut le présenter comme un Messie qui est proche des pauvres. Matthieu le présentera comme un Messie qui est aussi proche des élites, parce que chez Matthieu, ce sont les mages qui font partie de l'élite religieuse et sociale, qui vont rendre visite à Jésus. Mais chez Luc, Jésus, c'est le Messie des pauvres. Voilà pourquoi il naît dans des conditions modestes. Et puis de deux, ce Messie nous apporte la paix. Voilà pourquoi dans le chant des anges, il y a l'allusion à la paix. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Ça nous rappelle l'une des prophéties d'Isaïe, notamment Isaïe 9, hein, de 1 jusqu'à 6, hein, qui parle du Messie comme prince de la paix. Alors, le matin, Jean 1, de 1 à 18, hein, c'est le prologue selon saint Jean. Le contexte dans lequel Jean écrit le, contexte, le prologue, c'est la gnose. C'est-à-dire cette hérésie qui pense que Dieu ne peut pas s'incarner parce que la matière, donc la chair, n'est pas appréciable. Il déprécie la matière, les gnostiques. Comme il déprécie la matière, il déprécie la chair, et donc Dieu ne peut pas prendre notre chair. Voilà pourquoi, pour répondre à ces hérétiques de la gnose, Jean, dans son évangile, insiste beaucoup sur le fait que le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair, il insiste là-dessus parce que les gnostiques pensent que Dieu ne peut pas prendre notre chair parce qu'il n'apprécie pas la chair. La chair n'a pas de valeur. Selon les gnostiques. Et voilà pourquoi, chez Luc aussi, Luc 2, 7, hein, Marie enveloppe Jésus de linge. Ça signifie que c'est vraiment un être humain, quelque chose de matériel. Un être humain, voilà, on l'enveloppe de linge et on le dépose dans une mangeoire. Alors, chez Jean, justement, l'insistance sur le Verbe fait chair, c'est pour montrer qu'il a vraiment pris notre chair, contrairement à ce que pensent les gnostiques. Et puis, il attribue des qualités à Jésus. Jésus est le Verbe, mais il est aussi la vie. Il est la vie, comme il le dira lui-même dans l'évangile, hein, le même évangile de saint Jean, Jean 14, 6. Hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et une autre qualité que Jean attribue à Jésus, c'est la lumière. Il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Et il est celui-là qui est venu pour habiter parmi nous. Saint Jean ne parle pas de Jésus comme Emmanuel. mais il nous montre que il est venu rester parmi nous comme Emmanuel, parce que le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. En grec, il a planté sa tente parmi nous. Donc, il est vraiment Emmanuel. Et au point que, comme dit Saint Jean dans son prologue, il a habité parmi nous, c'est-à-dire qu'il a planté sa tente parmi nous. Il veut rester parmi nous jusqu'à la fin des temps. Merci.
Merci beaucoup, mon père. Merci donc pour ces enseignements et le rappel des enseignements suivis au cours de cette semaine. À présent, vous qui nous suivez, nous vous accordons la parole au 081 99 66 098. Au 081 99 66 098. Nous allons prendre d'abord cette question antérieure trouvée dans notre messagerie. Mon père, un auditeur veut savoir, il veut avoir une précision sur le plan de l'Église par rapport à l'appellation d'un prêtre. Il a dit par exemple, vous, on peut vous appeler Père Roger, Révérend Père ou bien Papa Roger.
Bon, officiellement, c'est dans l'Église, vous avez deux appellations. Les prêtres diocésains sont des abbés. Hein. On appelle Monsieur l'abbé. On dit Monsieur l'abbé quand c'est un prêtre diocésain. Quand c'est un prêtre religieux, on dit Révérend Père. À la rigueur, on peut dire Père. Mais Papa, bon, ça c'est courant. Ça c'est vraiment, c'est une pratique courante, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça commençait dans l'Église, hein, parce qu'on risquerait de croire que ça commençait dans les églises de réveil, où on appelle des pasteurs Papa. Mais ça commençait dans l'Église parce que notre Saint-Père, mais pourquoi on l'appelle Pape? Parce que dans l'Antiquité, à un certain moment, par affection, on appelait le souverain pontife Papa. Papa, et puis de là, bon, le mot pape est venu de là. Donc, même dans l'Antiquité, on avait cette tendance-là, par affection, d'appeler le chef spirituel papa. Et voilà pourquoi le pape, on l'appelait papa, et bon, maintenant, c'est resté comme pape. C'est une appellation affectueuse, en fait. Mais du point de vue protocolaire, bon, c'est soit vous dites monsieur l'abbé, si c'est un prêtre diocésain, ou bien révérend père. Bientôt simplement père, si c'est un prêtre religieux.
Sylvain Pouillet, depuis Matadi, nous envoie trois questions. Nous allons prendre d'abord la première et puis les deux autres. Nous y reviendrons juste après la petite pause que nous allons observer dans deux minutes. Première question, dans Jean 1, 18, affirme que le Verbe était Dieu et le Verbe s'est fait chair. Comment cette double affirmation soutient-elle la doctrine de l'incarnation et de la Trinité?
Le Verbe était Dieu et le Verbe s'est fait chair, c'est ça l'incarnation, parce que le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire il a pris notre humanité en toutes choses excepté les péchés. Et l'évangéliste qui nous montre comment est-ce que le Verbe s'est fait chair, c'est Luc, parce que Luc détaille brièvement comment Jésus est né. En Luc 2:7, Marie enfante son fils et puis l'enveloppe de linge les dépose dans une mangeoire, ça c'est l'incarnation, racontée en peu de mots par Luc, et puis l'incarnation est célébrée par les anges à partir du ciel, hein, toujours en Luc 2. Et bon, il était Dieu, ça veut dire que bon, il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, parce qu'on sait que le Père est Dieu. Et quand on dit le Verbe était Dieu, ça signifie qu'il est de nature divine. Mais Saint Jean dit aussi le Verbe était auprès de Dieu. C'est-à-dire que le Verbe ne se confond pas avec le Père. Il est comme le Père parce qu'il est Dieu, comme le Père aussi est Dieu. Mais il est différent du Père. Voilà pourquoi Saint Jean dit il était auprès de Dieu. On ne peut pas être auprès de soi-même. Il n'y a pas de confusion possible entre Jésus, le Verbe, et puis Dieu le Père. Parce que Jésus est Dieu, voilà pourquoi on dit le Verbe était Dieu, mais il est différent de Dieu le Père, voilà pourquoi on dit il était auprès de Dieu. Donc Jean a bien choisi les mots qui nous permettent d'éviter certaines hérésies. C'est-à-dire que le Père, le Fils est comme le Père parce qu'il est Dieu comme le Père, mais il est différent du Père parce que lui il est Fils. C'est ainsi que Jean dit il était auprès de Dieu.
L'ombre calme d'une nuit, une douce lumière luit. Dans la crèche humble et sacrée, l'amour de Dieu vient habiter.
nous nous retrouvons avec la deuxième question de Sylvain Pouyebé depuis Matadi. Dans Hébreux 1:6, l'auteur oppose les révélations anciennes à celles du Fils. Comment cela éclaire-t-il la nouveauté radicale de la venue du Christ?
Oui, la nouveauté de la venue du Christ se situe d'abord à un double niveau, c'est-à-dire que le Christ est différent des prophètes de l'Ancien Testament parce que lui, il est le Verbe fait chair, c'est-à-dire il est lui-même la parole. C'est lui la parole. Par lui, tout a été créé. Dieu a créé par la parole, et c'est une allusion au Fils. Parole qui est présentée comme Verbe dans le prologue de Saint Jean, Jean 1. Et ce Verbe-là se fait chair. C'est ça la différence. Donc Jésus est la parole elle-même. Jésus lui-même est la parole, ou bien le Verbe, si vous voulez. C'est ce qui les différencie des prophètes qui annonçaient la parole sans s'identifier à la parole. Mais Jésus s'identifie à la parole qu'il annonce, parce qu'il est le Verbe, fait chair bien sûr. Des deux, Jésus non seulement annonce la parole à laquelle il s'identifie, mais il nous révèle aussi la face du Père. Qui me voit a vu le Père. C'est à ce niveau-là que Jésus se démarque des prophètes de l'Ancien Testament qui ont annoncé la parole de Dieu sans révéler le Père. Parce que eux n'étaient pas comme Jésus, Verbe incarné. Et donc Jésus nous révèle le Père par sa présence en disant notamment « Qui me voit, qui m'a vu, a vu le Père ». Donc il est tout différent de ces prophètes-là à ces deux niveaux. D'abord parce qu'il annonce la parole à laquelle il s'identifie, parce qu'il est le Verbe fait chair. Et puis... il est celui qui, par l'incarnation, nous révèle le visage du Père. Il m'a vu, a vu le Père, dira-t-il.
Sa dernière question dit ceci. En Isaïe 52:7-10, « Mon Père, que symbolisent les sentinelles qui élèvent la voix et comment leur rôle prophétique se réalise-t-il dans l'Église d'aujourd'hui ?»
Dans Isaïe 52, de 7 à 10, bon, je ne connais pas très bien ce verset-là par cœur, mais le contexte est celui de l'exil, et presque la fin de l'exil, et on attend l'annonce de la fin de l'exil, et la sentinelle, en principe, dans le contexte d'Isaïe, il était dans ce qu'on appelle tour de garde, c'est-à-dire il y avait une tour à l'entrée de la ville, et puis il se mettait au-dessus. Et non, la sentinelle n'est pas comme nous aujourd'hui, celui qui est à la guérite, mais lui, il était à la porte de la ville, mais au-dessus, sur une tour de garde, et il voyait de loin, il pouvait vous aviser en disant, de loin, je vois des ennemis venir. Mais dans le contexte du retour de l'exil, il pouvait aussi annoncer la bonne nouvelle en disant, écoutez, je vois les nôtres revenir, c'est que l'exil est fini. Et donc c'est quelqu'un qui pouvait apporter une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du retour de l'exil notamment, mais il pouvait aussi apporter une mauvaise nouvelle, une mise en garde en disant, écoutez, je vois une armée étrangère venir pour agresser notre ville ou notre nation. Donc ça, c'est ce que faisait la sentinelle. Alors aujourd'hui, il y a une coïncidence sémantique entre la mission des évêques, parce que la mission prophétique de l'Église est incarnée de façon particulière par l'épiscopat, par les évêques. Et évêque signifie épiscopos en grec, et épiscopos signifie sentinelle. Sentinelle qui regarde à partir d'en haut. C'est ça, épiscopos. Donc, épiscopos, copéo, c'est le verbe voir, et puis épi, c'est-à-dire au-dessus. C'est lui qui est au-dessus pour regarder, c'est-à-dire l'évêque joue exactement ce rôle-là. C'est comme s'il est sur une tour de garde, il voit loin. Parce qu'il voit loin, il vous avise. Il est visionnaire, c'est quelqu'un qui voit très loin. Et voilà pourquoi quand les évêques parlent et on ne les écoute pas, on finit toujours par leur donner raison très plus tard. Parce que justement, ce sont des gens qui voient loin. Épiscopos, c'est lui qui est au-dessus. Et étant au-dessus, comme sur une tour de garde, il voit les dangers de loin. Il peut vous aviser, dit attention, je vois ceci. Et bon, quand il parle, bon, tout le monde parfois raconte n'importe quoi. Et puis après, bon, plus tard, on leur donnera raison. Parce que épiscopos signifie justement voir à partir d'en haut.
Bonjour ma radio, Félicien Katumba de Marie depuis la paroisse Saint-Pédis. N'est-ce pas la naissance du Christ bouge dans tout le monde les événements des judaïstes, musulmans et athées?
Bon, ça dépend, c'est-à-dire il y en a qui accueillent le Christ, il y a d'autres qui ne l'accueillent pas. Même si, vouloir ou pas, le monde est largement influencé par le christianisme. Et donc le monde, l'histoire de l'humanité est largement influencée par ce qui s'est passé à Bethléem, la naissance de Jésus. Il y a même ce qu'on appelle l'ère chrétienne. Aujourd'hui, on parle de... Nous sommes en 2025 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire depuis la naissance de Jésus. Même si Jésus n'est pas né exactement en l'an zéro. Mais on sait que dans l'histoire de l'humanité, c'est comme cela. On définit le temps en fonction de la naissance du Christ.
Nous prenons sa deuxième question. La Bible n'étant pas les livres d'histoire, mais tous les récits du Messie laissent quand même certaines traces historiques tangibles.
Mais oui, c'est-à-dire que le Messie, pour ce qui est des évangiles, hein, donc disons les évangiles sont pleins de genres littéraires, mais il y a l'historicité. L'historicité des textes bibliques, ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que même si ce sont des paraboles, ça peut être aussi des mythes, ça peut être des fables, anecdotes, mais ce sont des récits qui ont un fond historique. C'est-à-dire que des récits donnés par Jésus dans un contexte historique précis. Voilà pourquoi on parle de Jésus de l'histoire. Un Jésus de l'histoire existe, c'est-à-dire qu'il est né à Bethléem et on parle de lui dans les évangiles, mais non seulement dans les évangiles, même dans ce qu'on appelle des textes parabibliques, c'est-à-dire des textes comme les écrits du 1er siècle, hein, des juifs du 1er siècle comme Flavius Joseph et tant d'autres, parlent de Jésus. Ils parlent de Jésus, ça signifie que Jésus est un personnage historique. Donc là, il n'y a aucun doute. Et en tant que personnage historique, il a vécu à un moment donné dans notre humanité. On situe cette période-là, du moins, plus ou moins entre l'an 6, plus ou moins, avant Jésus-Christ. Il serait mort en l'an 30, selon la version de Saint Jean. Donc, il serait mort plus ou moins à 36 ans. Et puis, selon la version des synoptiques, il serait mort autour de l'an 33. Donc, il avait plus ou moins 39 ans. Aujourd'hui, en tout cas, la science a beaucoup évolué par rapport aux études sur Jésus historique. On sait que Jésus a vécu, si pas, plus ou moins 36 ans, 39 ans. Donc le maximum, ce serait 39 ans d'existence et le minimum, plus ou moins 36 ans.
Et pour finir avec ces questions, mon père, pouvons-nous dire que tous les physiques de Jésus lui est donné par Marie, entre autres les sangs, l'eau et les chromosomes?
Ah oui, c'est ça, effectivement. C'est-à-dire qu'il a reçu tout de la Vierge Marie, parce que du point de vue humain, Jésus a reçu l'humanité de la Vierge Marie à 100%. Parce que son père, Joseph, n'est pas son père biologique. Donc biologiquement, Jésus a tout reçu de la Vierge Marie.
Bonjour mon père et joyeux Noël. Joseph, c'est la première question. Joseph et Marie vont à Bethléem pour le recensement, mais le temps d'accoucher arrive. Qu'en est-il du recensement? Joseph et Marie étaient-ils recensés ou pas?
Non, c'est Joseph qui doit se faire recenser. On ne recense pas les femmes et les enfants. Merci à Joseph de Marie. Hein.
C'est pas Joseph de Marie, c'est Alexandre depuis Goma.
Alexandre depuis Goma, merci beaucoup. Joyeux Noël hein, à vous tous qui nous suivez à Goma, notamment l'équipe de Radio Maria Goma. On commence par l'évêque, hein, son Excellence Monseigneur Willy Ngumbi avec de Goma, l'abbé Adeodatus, papa Makila et tant d'autres hein, qui œuvrent, qui prestent au sein de Radio Maria et Goma. Alors, maintenant, la question, c'est Joseph.
Les recensements. Joseph et Marie étaient-ils recensés?
Dans les évangiles, hein, vous avez remarqué que lors du récit de la multiplication, je préfère appeler ça partage de pain ou fraction de pain, quand on parle de ceux qui étaient présents, on dit il y avait plus ou moins 5000 hommes, excepté les femmes et les enfants. C'est-à-dire que le recensement concerne les hommes. Et donc, si Marie part avec Joseph, C'est tout simplement parce que Joseph est un homme responsable. Il pouvait laisser sa femme parce qu'on ne recense pas les mamans. On recense les hommes parce que le recensement est fait en vue d'estimer les effectifs de l'armée. Or, en ce moment-là, les mamans n'allaient pas à la guerre, sont les papas. Alors, on recense les hommes parce que ça permet au chef, à l'empereur, d'avoir une idée sur ceux qui peuvent faire partie de son armée. Voilà pourquoi Marie est partie, juste parce que Joseph voulait amener sa femme, qui était d'ailleurs à terme. Mais pour le recensement, il n'y a que Joseph, dans ce contexte-là, qui s'est fait recenser.
Nous prenons sa deuxième question. Je rappelle, ce sont les questions d'Alexandre depuis Goma. Combien de temps le couple et l'enfant né passe-t-il à Bethléem avant de rentrer à Nazareth?
La chronologie n'est pas très très précise. Hein. On sait seulement que si on veut essayer de risquons un peu. C'est-à-dire que Jésus est né. Quand il est né, les mages sont venus parce qu'ils quittent Bethléem après la visite des mages. Les mages, on les situe plus ou moins au niveau de l'Iran actuel. Probablement, ils sont venus de l'Iran actuel. Et en ce moment-là, à pied, de l'Iran actuel jusqu'à Jérusalem, et puis Bethléem à pied, c'est un voyage d'au moins 2 mois. Plus ou moins 2 mois de voyage. Ça, c'est comme cela qu'on estime. Alors, ça signifie qu'ils ont fait plus ou moins 2 mois à Bethléem. Et puis après, ils sont allés en exil en Égypte. Parce que les mages de passage on a avisé les mages de ne pas rentrer par Jérusalem. Et puis après, il y a eu l'ange qui a dit à Joseph d'amener la femme, sa femme et puis son enfant en Égypte. Et donc ils sont allés en exil. C'est intervenu plus ou moins 2 ou 3 mois après la naissance de Jésus. Parce que le temps que les mages partent de l'Iran actuel jusqu'à Jérusalem, Bethléem, il faut plus ou moins 2 mois, 2 à 3 mois. Alors après, ils sont allés s'installer à Nazareth. Et là, Jésus probablement avait plus ou moins 2 ans. Donc ils ont fait 2 ou 3 mois à Bethléem. Ils sont allés en Égypte où Jésus a fait plus ou moins 2 ans avec ses parents. Et puis, ils sont allés s'installer à Nazareth. La question qui viendra, je sais, c'est maintenant, quand est-ce qu'ils l'ont présenté au temple? Est-ce qu'ils ont eu le temps de le présenter au temple de Jérusalem avant d'aller en Égypte? Ça devrait être le cas, parce que la présentation de l'enfant se fait autour de 40 jours après sa naissance. Et donc, si les mages sont arrivés 2 ou 3 mois après la naissance de Jésus, et donc, ils ont eu le temps de les présenter au temple. Ça, c'est une reconstitution qu'on peut faire sans prétendre à l'exhaustivité parce qu'il faut tenir compte aussi du caractère des textes. Les textes ne sont pas toujours... Celui qui écrit les textes n'a pas la prétention de nous relater des faits historiquement parlant. Son souci, c'est plus de nous transmettre un message théologique.
Dans sa dernière question, Alexandre de Pugoma dit ceci. Bethléem paraît comme une cité moins développée, sans beaucoup d'hôtels, et pourtant c'est la ville du grand roi David. Est-ce que le roi n'a pas privilégié chez lui, comme c'est le cas actuellement avec certains dirigeants?
Merci beaucoup. C'était certainement développé, parce que la grande ville, c'est Jérusalem, qui est une ville, qui est la capitale. Et Bethléem, c'est non loin de Jérusalem, une 10 kilomètres, 12 kilomètres, je crois, plus ou moins. Et donc, c'est sûr que Bethléem était aussi développé. Mais il faut tenir compte, comme je disais tout à l'heure, celui qui écrit l'évangile, que ce soit Luc ou bien d'autres évangélistes, ne veulent pas nous relater les faits en s'en tenant à l'histoire. Ils ne sont pas des historiens, ils ne font pas l'histoire. Ce sont des gens qui veulent nous transmettre un message théologique. Voilà pourquoi même si Bethléem avait des hôtels de l'époque, c'est-à-dire des lieux où on pouvait héberger les gens, même si Jésus pouvait naître dans un cadre qui est tout à fait un cadre décent, mais Luc préfère qu'il soit né dans un local des animaux. Parce que l'objectif de Luc, c'est justement de nous présenter un Messie qui est proche des pauvres. Voilà pourquoi Jésus doit naître là. c'est pas nécessairement parce que il manque des hôtels, tout ça à Bethléem, mais c'est tout simplement parce que lui que tient à ce que ça soit ainsi. Donc il nous révèle cet aspect-là qui est très important pour lui parce qu'il veut nous montrer que Jésus est vraiment proche, proche des pauvres.
Mon Père, au commencement était la parole, ou bien au commencement étaient les verbes. Quelle est donc la traduction la mieux adaptée?
Ah ben ça dépend de l'objectif que vous poursuivez dans votre traduction. La parole, il y a beaucoup de Bibles, hein, des Bibles populaires préfèrent la parole. Parce que le mot verbe, bon, c'est un peu savant. Alors souvent ça complique un peu les gens et des traductions populaires préfèrent souvent utiliser la parole.
Dans la nature inhérente de l'homme, il y a le péché, mon Père. Même parmi les anges, il y a certains qui ont pu pécher comme Satan. Alors, mon Père, l'homme sans péché est-il vraiment un homme ou simplement Dieu qui a pris la forme humaine? C'était les questions de Arsène Ika.
Bon, c'est-à-dire que le péché est lié à notre nature depuis la chute d'Adam et Ève. Mais ce qui est important, c'est justement de résister aux tentations. Et si l'on tombe, il faut recourir à la miséricorde de Dieu à travers le sacrement des pénitences et réconciliation.
Bonjour ma radio, bonjour mon Père. Expliquez-nous, la fête de Noël est vraiment c'est quoi? Puisque j'ai du mal au cœur, un pasteur prêchait la nuit que c'est une fête de païens. Donc chaque le 25 décembre, nous fêtons le païen. Cyril Moutima Nkiate depuis Bandundouville.
Bon, moi je dis ceci à tous ces gens-là, pasteurs ou pas, qui disent que Noël est une fête païenne, ou fête d'origine païenne. Il n'y a que deux choses, ou bien c'est la malhonnêteté, c'est-à-dire ils savent que c'est pas ça, mais ils trompent les gens, ou bien c'est l'ignorance. Franchement, Noël ne peut pas être une fête d'origine païenne, absolument pas. Parce que j'ai suivi, quelqu'un m'a envoyé une mini-vidéo, je vois les noms du pasteur, mais je ne vais pas citer le nom. Mais je voudrais quand même dire ceci, que c'est vraiment malhonnête. Quand on dit que Noël c'est une fête païenne ou d'origine païenne, c'est malhonnête. Parce qu'ils connaissent aussi le contexte. Les pasteurs dont j'ai reçu la mini-vidéo, ils parlent même de l'histoire. Ils disent qu'il y avait les Saturnales, il a raison, il y avait les cultes de Mithre, il a raison. Maintenant, si vous dites que Noël est une fête d'origine païenne, ça veut dire que les chrétiens adoraient Mithre. C'est ça. Parce que c'est la fête de Mithre. Dans les contextes de l'époque, c'était la fête de Mithre, ou bien du Sol Invictus. Est-ce que les chrétiens, vous dites que Noël est une fête d'origine païenne, ça veut dire que les chrétiens adoraient Sol Invictus, le soleil, le dieu soleil, ou bien Mithre? Non. Non, c'est pas vrai. Et ils n'adoraient pas ces divinités païennes. Ils ont toujours adoré notre Dieu. Les chrétiens, nos ancêtres de l'Antiquité adoraient Jésus, comme nous aussi nous adorons Jésus. Alors comment vous allez dire que la fête de la naissance de Jésus est d'origine païenne? C'est comme si en célébrant la naissance de Jésus, et ils adoraient Mithra. Non, ce sont des fêtes qui sont parallèles. C'est vraiment parallèle. Est-ce que les fêtes païennes de l'époque ont-ils inspiré les chrétiens pour que les chrétiens inventent, commencent à fêter Noël? Ça, c'est une autre question. Ça devient plus pertinent. Alors là, on comprend que non. C'est que comme eux, ils célébraient leur Sol Invictus, ils célébraient leur Mithra, leur divinité païenne, les chrétiens ont dit, mais pourquoi nous ne célébrons pas le vrai Dieu qui est la véritable lumière? Parce que le contexte, c'était la lumière. Ils célébraient Sol Invictus parce qu'on est en plein hiver, mais autour du 20 décembre, il y a un peu d'éclairage, le soleil prend un peu de dessus, même si c'est l'hiver. Alors ils célébraient Sol Invictus et autres. Alors les chrétiens ont dit, nous célébrons maintenant notre Jésus, la naissance de notre Jésus, qui est la vraie lumière, qui éclaire le monde. Comme Jésus lui-même a dit en Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Comment tu vas dire que c'est une fête païenne? Je ne comprends pas. C'est vraiment, ou bien c'est l'ignorance notoire, ou bien c'est la malhonnêteté. Parce que les chrétiens n'ont jamais adoré Mithra. S'il y avait à l'époque une fête de Noël, qu'on appelle Noël, après je vais vous expliquer Noël c'est quoi. Une fête Noël au cours de laquelle on vénérait ou on adorait le Dieu Soleil. Et puis à la longue, cette fête-là des chrétiens qui adoraient le Soleil, eh bien, a évolué, on a commencé à adorer Jésus-Christ. Alors là, vous avez raison. Mais montrez-moi où, dans l'histoire, avec preuve à l'appui, où est-ce que les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ, célébraient le culte païen du Sol Invictus ou de Mitra? Prouvez-moi. Et je vous dis que vous n'allez pas prouver ça. Par contre, vous pourrez prouver que vers le 4e siècle, mais ça commençait déjà au 2e siècle en Afrique, la célébration de Noël, mais c'est plus au 4e siècle, les chrétiens, vers le 25 décembre, c'est-à-dire le 25 décembre, pas nécessaire, parce que Mitra était célébré autour du 21-22 décembre. C'était même pas le 25 décembre. Alors les chrétiens, le 25 décembre, ont commencé à célébrer la naissance de la véritable lumière qui est différente de la lumière du soleil. Le soleil, c'est une lumière naturelle. Ils ont commencé à célébrer Jésus-Christ, la naissance de Jésus qui est la véritable lumière. Ça, on peut prouver ça historiquement. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec des fêtes païennes? Et puis, Noël. Noël, ça signifie... Qu'est-ce que Noël, ça signifie adoration de Sol Invictus? Noël signifie natalis, c'est-à-dire naissance. Naissance de qui? De Jésus-Christ. Donc, soit c'est l'ignorance notoire, ou bien c'est la malhonnêteté. Il n'y a que ces deux choses-là. Parce que s'ils connaissent ça, parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous avez tout le résumé, n'est-ce pas? Comme celui dont j'ai vu la vidéo, bon, ici, il est parti de l'IA. J'ai compris que c'était l'IA qui lui a fourni tout ce qu'il avait à dire là. Mais la conclusion, ça m'a étonné. Parce que si tu sais que, dans l'Antiquité, il y avait les fêtes de Saturnales, Sol Invictus, Mitra, alors demandez, mais qui célébrait ces fêtes-là? Est-ce que ce sont des chrétiens? Ce sont des païens? Ok. Alors, pourquoi vous allez dire que la fête des chrétiens, parce que ce sont des chrétiens qui ont commencé à célébrer Noël, comment vous allez dire que cette fête-là est d'origine païenne, alors que eux, quand ils ont commencé à fêter Noël, ils ne pensaient pas adorer Sol Invictus. Ils ont commencé à fêter Noël pour célébrer la naissance de Jésus. C'est ainsi que Noël viendra du mot natalis, latin, qui signifie naissance. On sous-entend par là naissance de Jésus. Donc c'est vraiment malhonnête. Et si ce n'est pas la malhonnêteté, c'est une ignorance qui est inadmissible au XXIe siècle.
Nous poursuivons cette catéchèse interactive et vous nous suivez sur la bande FM. Nous rappelons que vous pouvez aussi nous suivre en images et nous sommes en direct sur la page Facebook du Centre biblique Mediaspol. Nous prenons les questions de Malish Makambo depuis la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Mon père, ce n'est pas un péché le fait de donner le nom de Christ, Jésus, Messie ou Emmanuel aux humains?
Ben, ça existait à l'époque. Le nom Jésus, c'est un nom propre, mais qui était commun. Il y avait beaucoup de Jésus. C'est ainsi que Josué, ça vient, c'est la même chose. Ça a plusieurs variantes dans... Même Isaïe, c'est Yehoshua qui est devenu Isaïe. Ça signifie en fait Dieu sauve. Ou Josué, c'est toujours Jésus, mais d'autres variantes. Alors, à l'époque de Jésus, il y avait plusieurs Jésus. Hein. Voilà pourquoi notre Jésus est toujours appelé Jésus de Nazareth. Parce qu'il y avait d'autres Jésus aussi. Et déjà, dans le Nouveau Testament, il y a au moins trois Jésus. Parce que plutôt dans la Bible, vous avez notre Jésus de Nazareth, vous avez Bar-Jésus, dont parlent les Actes des Apôtres, mais vous avez aussi... l'un des ancêtres de Ben Sira le sage, c'est-à-dire lui, c'est dit fils de Jésus, n'est-ce pas? Alors, bon, c'est un nom commun de personne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut donner ça aux gens? Mais on donne ça aux gens, parce que vous avez des gens qui s'appellent Josué. Josué ici, n'est-ce pas? Il est ingénieur audio-fréquence ici à la radio, papa Josué Kongolo, mais ça signifie Jésus. Josué signifie Jésus. Et en Amérique latine, on le trouve beaucoup, notamment au Mexique. Il y a des gens qui portent le nom de Jésus. En principe, on prend le nom de saint, un saint qui devient votre saint patron, que vous devez imiter. Mais il y en a qui portent aussi le nom de Jésus. Comme Josué, ça signifie Jésus, il y en a encore aujourd'hui. Parmi nous, les catholiques, il y a des Josué.
C'est la Sainte Vierge Marie qui était la première à porter ces noms Marie, ou avant elle, il y avait déjà d'autres Marie.
Beaucoup de Marie, beaucoup de Marie. D'ailleurs, en Égypte, il y avait des Marie. Et en Égypte, et puis en Israël, il y avait des Marie par-ci, par-là. Donc Myriam, je crois en Égyptien antique, c'est même Myriam, quelque chose comme ça. Et vous avez Myriam, la sœur de Moïse, n'est-ce pas? Bon, il a eu ce nom-là en Égypte, Myriam. Et Myriam signifie Marie. En araméen, c'est plutôt Mariam. Mariam qui signifie aussi Marie. Et l'essence du mot, c'est par rapport à l'amour. Souvent, c'est bien-aimé de Dieu ou bien quelqu'un qui aime Dieu. C'est ça ce que signifie Mariam en araméen.
On l'appellera prince de paix. Si le Christ est prince de paix, qui est alors roi de paix? Dieu le Père ou le Saint-Esprit?
Bon, chaque personne de la Trinité a ses particularités. Et quand on dit la paix est souvent liée à Jésus. Il est le prince de paix, mais parmi les fruits de l'Esprit, il y a aussi la paix. En Galates 5, 22, l'amour, c'est l'unique fruit de l'Esprit, mais de l'amour dérive d'autres vertus. Ou d'autres fruits, si vous voulez. Et parmi les fruits ou les vertus qui dérivent de l'amour, Paul cite aussi la paix. Donc la paix est liée à Jésus, c'est lié à l'Esprit Saint. Quand on parle de fruits de l'Esprit Saint, l'amour engendre entre autres la paix. Mais la paix est aussi liée à Dieu le Père. On ne peut pas l'exclure, n'est-ce pas, par rapport à cette dynamique créée par Jésus, hein, c'est-à-dire... Le combat pour la paix nous invite à être artisans de la paix. Et je crois que Dieu est amour, mais Dieu est aussi paix.
Bonjour mon père, bonjour Patrick, voici mes questions. Jésus de Nazareth, fils de Marie, est devenu Jésus-Christ avant ou après sa mort?
Ah ben ça c'est dans l'histoire. On l'appelait Jésus de Nazareth, mais aussi Jésus le Christ. Ça apparaît comme cela. Jésus, que l'on appelle Christ, ça existe dans le Nouveau Testament. Et donc, Jésus-Christ existait déjà dans le Nouveau Testament. On l'appelle Jésus de Nazareth ou Jésus le Christ, ou Jésus qu'on appelle Christ. Voilà pourquoi, dans l'évolution, au lieu de dire en français Jésus le Christ, on dit Jésus-Christ. Mais ça commençait déjà dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y en avait déjà.
Aujourd'hui, un ange peut-il nous parler comme il l'a fait à Marie, Zacharie ou Joseph?
Il y a des révélations privées, mais l'Église doit absolument approuver cela. Donc des gens qui reçoivent des visions des anges, comme les enfants de Fatima. Avant de recevoir des visions de la Vierge Marie, ils avaient reçu des visions des anges. Et donc il y en a, des anges peuvent apparaître aux humains, mais il faut en parler à votre curé. Et si le curé voit que bon, c'est du sérieux, il en parle à l'évêque. Et puis, bon, si l'Église reconnaît ça comme révélation privée, bon, on dit, bon, voilà, l'ange lui était apparu et lui a donné un message. Donc, ça peut arriver aussi.
Et pourquoi, Père, mon Dieu, n'intervenait pas quand on tuait ses serviteurs, exemple Étienne, Jean-Baptiste, Kizito, Mukasa et les autres martyrs, alors qu'ils avaient encore la mission ou l'émission des dieux?
La même question peut être posée, pourquoi il n'est pas intervenu quand on tuait son fils, n'est-ce pas? Quand son fils est mort sur la croix, il n'est pas intervenu. Donc on peut poser la même question, élargir en fait la question. Mais ça signifie tout simplement que quand il y a des actes pareils, c'est-à-dire les martyrs, eh bien, ce n'est pas Dieu qui fait tuer, ce sont des humains qui tuent. Parce que, bon, Dieu vous propose la vie. Malheureusement, parfois les humains préfère la mort. Alors, quand on donne la mort, n'est-ce pas, aux chrétiens qui meurent comme martyrs, et Dieu n'est pas pour cela. Mais quand ça arrive, eh bien, Dieu convertit cet échec, cette défaite apparente en victoire. Ça devient victoire parce que on les tue, mais ils entrent dans la vie. Ils deviennent des martyrs. Ils peuvent intercéder pour nous. Ils occupent une place de choix au ciel. Ils deviennent nos intercesseurs parce qu'ils sont des martyrs.
Pourquoi, mon père, la plupart de prophètes venaient en Afrique, plus précisément en Égypte? C'était pour se consacrer sur leur vie spirituelle ou comment?
Bon, il faut voir dans quel contexte. On parle de Jérémie qui serait parti en Égypte Mais l'Égypte était plus à l'époque, dans le contexte de l'Ancien Testament, on y allait pour deux raisons. Soit pour se réfugier. On a des problèmes politiques. Eh bien, on fuit le plus loin possible. On traverse la mer Rouge, on va en Égypte. Loin du chef avec lequel vous avez des problèmes. Vous avez les cas de Jésus, n'est-ce pas, encore bébé. Son père adoptif l'amène en Égypte parce qu'il voulait échapper, n'est-ce pas, à Hérode le Grand. Ce sont des cas qui étaient fréquents en vue de chercher un refuge politique, plutôt un asile politique. Mais on allait aussi en Égypte parce que la vie était plus belle là-bas qu'en Asie. Donc c'était plus moderne dans les contextes de l'époque, la vie était beaucoup plus aisée. C'est le cas des enfants de Jacob qui vont migrer en Égypte en suivant leur frère Joseph, parce que vivre en Égypte, c'était beaucoup mieux que vivre en Israël, par exemple.
Bonjour ma radio, bonjour mon père. La paix dont vous parliez avant hier, c'est un don surnaturel. Noël pour nous s'est mal passé. Le 18, nous avons perdu un membre de la liturgie. Puis hier, nous avons perdu notre animateur. Est-ce que c'est ça la paix? Question de Kétia depuis Bukavu.
Effectivement, merci beaucoup à notre sœur Kétia depuis Bukavu. La question est bien posée. Apparemment, ça perturbe Noël. Mais quand quelqu'un meurt, qu'est-ce que nous disons? Nous disons repose en. Repose en quoi? En. Repose en paix. C'est-à-dire que par la mort, on retrouve la paix, la vraie paix. Parce que quand on est près du Seigneur, éternellement, eh bien, commence la paix au sens plein du mot. Et si nous avons une paix, c'est vrai que c'est la paix du Christ, tout ça, mais cette paix subit des pesanteurs de notre existence humaine. Mais quand on meurt, eh bien, c'est la paix éternelle. Et donc, il faut voir les choses de cette façon-là. C'est vrai que le fait que la mort vous arrache à votre affection, un être si cher, vous pleurez, et ça fait mal, mais c'est une façon de réaliser la paix. Cette paix que le Christ nous apporte, eh bien, atteint sa plénitude au-delà de cette vie. Lorsque vous reposez en paix auprès de Dieu, c'est la paix au sens plein du mot. Donc, mourir durant ce temps de Noël, qui est le temps où nous recevons la paix du Christ à travers l'enfant de la crèche, c'est une façon de vivre la plénitude de cette paix que nous apporte l'enfant Jésus.
Rama Spirit ou Spirif, depuis Brazzaville, se pose la question. Le message de Marie à Medjugorje, mon père, s'adresse-t-il au monde entier ou à des gens spécifiques?
Donc, ça s'adresse au monde entier. Hein? Merci à notre frère depuis Brazzaville. Ça s'adresse à tout le monde. Et puis, bon, Medjugorje, c'est universel parce que ça a déjà dépassé les niveaux diocésains. Maintenant, les dossiers au Vatican, on ne sait pas se prononcer parce qu'il y a encore de messages. Parce que chaque mois, il y a au moins un message que Marie donne à Medjugorje. Mais depuis le pape François, il y a un évêque qui est à Medjugorje. Je crois que c'est Monseigneur Aldo. Il est commissaire pontifical. Quand on dit commissaire pontifical, c'est-à-dire envoyé du pape. Il est là pour suivre tout ce qui se passe à Medjugorje. Et quand il y a des messages, avant de publier ça, ça, c'est l'Église. Avant de rendre ça public, ça passe par Monseigneur Aldo, commissaire pontifical du pape à Medjugorje, qui étudie ces messages-là avec ses théologiens. Il est entouré de théologiens, dont le père Boris, un théologien capucin, qui l'accompagne. Et ils étudient. Après, s'ils trouvent que c'est un message qui est édifiant, on rend ça public. Voilà pourquoi chaque fois que nous diffusons le message de la Vierge Marie à partir de Medjugorje, nous disons toujours avec approbation ecclésiastique, parce que ça a été approuvé. Et pour terminer, je voudrais dire à tous ceux qui parfois reçoivent des messages, disent, bon, ce matin j'ai reçu une maman ici, j'ai dit allez chez votre curé, parce que ce sont des choses, il faut commencer d'abord dans votre paroisse. Il se peut que ce que vous dites est vrai, on ne sait jamais. Parce que Marie est déjà apparu à Kinshasa, n'est-ce pas? Nous étions Kaouka. Mais commencez à la paroisse. Voyez les curés et soyez patientes. Et surtout, soyez obéissantes. Et c'est comme ça. Donc, ce n'est pas parce que, bon, vous avez vu la Vierge Marie qui vous a dit quelque chose. vous voulez diffuser ça à la radio, ça ne passera pas. Ça passera pas les cahiers, ça passera pas. Parce que tu vois, même Medjugorje, ce sont des voyants reconnus par l'Église, mais si la Vierge leur confie des messages, ça passe par l'Église d'abord, qui doit approuver. Si c'est approuvé par l'Église, bon. Et donc vraiment, je l'ai dit, parce qu'on reçoit de plus en plus ces gens qui viennent avec des messages de la Vierge Marie, d'après eux, et puis vous venez diffuser ça à la radio. J'ai dit non, allez chez les curés. Si les curés voient que c'est du sérieux, ils vont vous amener chez l'évêque. Et bon, après, si l'évêque met sur pied une commission, et puis il faut que le Vatican soit intéressé, même si ce sera la reconnaissance diocésaine d'abord, mais le Vatican doit dire son mot. Donc le processus, c'est très long. Il faut être patient. Si vous pensez recevoir des messages de la Vierge Marie, soyez patient, allez voir votre curé. Ne commencez pas tout de suite à diffuser ça dans les réseaux sociaux. Et surtout, ne pensez pas que Radio Marie va diffuser cela. Nous ne le ferons pas tant qu'il n'y a pas l'autorisation de l'Église.
On va prendre ce message sonore.
Bonjour Patrick. Joseph est passé en Égypte. Moïse est parti de l'Égypte. Et quand le Seigneur naît, il naît en Israël, mais il passe dans sa première enfance en Égypte. Donc l'histoire de salut doit-elle passer nécessairement par l'Égypte? Serait-ce une simple coïncidence ou il y a une explication spirituelle? C'est Papa Hyacinthe.
Merci beaucoup à Papa Hyacinthe. Hein. Joyeux Noël, Papa Hyacinthe. Là où vous êtes, hein, à la Gombe, proche du Sacré-Cœur. Bon, c'est dû d'abord au contexte géopolitique de l'époque. Comme je disais, l'Égypte jouait un rôle très important à l'époque parce que c'était une partie du monde très développée, beaucoup plus développée qu'Israël, beaucoup plus développée que chez les Hittites ou les Philistins. Les Égyptiens étaient beaucoup plus développés. Alors, c'était normal que parfois les gens y allaient parce qu'ils cherchaient la belle vie. En Égypte, c'est plus aisé, on mange, on est plus à l'aise. Ça paraît même dans les récits de Jacob, n'est-ce pas? Les enfants de Jacob, Joseph qui va en Égypte, et puis il y aura la faim dans le monde, mais en Égypte, il y a à manger. Donc, il y a cet aspect géopolitique de l'époque qui présentait l'Égypte comme un point, comme une sorte d'oasis. Oasis de bien-être. Mais ça a pris aussi un sens spirituel. Pourquoi? Parce que le fait que les fils d'Israël ont connu l'esclavage en Égypte, et puis ils ont été libérés de l'esclavage en Égypte, la Pâque a commencé en Égypte, ils quittent l'Égypte et cheminent jusqu'à la terre promise, alors l'Égypte amène un sens spirituel. Ce n'est plus seulement un oasis de bien-être, du moins à l'époque, mais c'est un sens spirituel dans le sens que même Jésus y va pour que s'accomplisse une prophétie d'Isaïe qui dit « D'Égypte, j'ai appelé mon peuple ». Si vous lisez Matthieu 2, c'est un peu ça. Lorsque l'ange apparaît à Joseph pour lui dire « Écoutez, prends l'enfant et sa mère, rentrez en Israël », eh bien, Matthieu dit « C'est pour que s'accomplisse ce que disait Isaïe, d'Égypte, j'ai appelé mon peuple. » Alors, en ce moment-là, l'Égypte a aussi un sens spirituel. C'est comme si c'était le point de départ. Le point de départ du peuple qui veut cheminer au désert, mais aussi le point de départ de Jésus qui est parti là-bas en exil. Et puis, pour que s'accomplisse la prophétie d'Isaïe qui dit « D'Égypte, j'ai appelé mon peuple. » Comme il avait appelé le peuple juif à l'époque de l'Égypte pour qu'ils aillent en terre de Canaan, Jésus aussi a été appelé de l'Égypte, selon Matthieu 2, pour aller habiter la terre d'Israël avec les parents.
Nous allons prendre la dernière question pour cette partie française.
Bonjour Père Roger. J'ai vraiment une petite préoccupation concernant ce que j'ai lu dans la Bible, de Corinthiens chapitre 12 à 7, au moins c'est seulement le verset 7. J'ai rencontré là-bas Paul vient de dire qu'il avait une écharde. Mais il avait voulu qu'on puisse lui côté, mon Dieu a dit que non, ma grâce te suffit. Pourquoi Dieu n'avait pas voulu seulement ôter cette charge? Il y avait aussi une personne dans l'église de Corinthe. Il faisait des rapports sexuels avec la femme de son père. Mais lorsque Paul avait entendu ça, il a dit seulement de les mettre à l'écart pour que l'esprit soit accepté devant Dieu. Ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire?
C'était la question de Henri Kassama.
Merci à notre frère Henri, et depuis Banabakit, je crois. Écharde dans la chair de Paul, hein, c'est-à-dire dans 2 Corinthiens 12, de 7 à 10, hein, écharde dans la chair. Bon, c'est. Écharde symbolise ce qu'on appelle le mystère de la souffrance. Nous avons tous des échardes dans la chair. C'est-à-dire, parfois, vous souffrez sans savoir pourquoi. Vous vous posez des questions. Il y en a qui sont souvent malades. En tout cas, toujours en train de prendre des médicaments. Il peut se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais pour que ça m'arrive? Toujours moi. Et souvent hospitalisé. Mais pourquoi? Eh bien, ça peut être l'écharde dans la chair. C'est-à-dire une souffrance qui va vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie pour des raisons que vous ignorez, mais Dieu seul sait. Parce que la souffrance reste toujours un mystère. On ne peut pas tout expliquer. Vous pouvez expliquer pourquoi vous souffrez ou pourquoi l'autre souffre, mais vous allez toujours vous arrêter quelque part. Il y a toujours, ça reste toujours énigmatique, l'énigme de la souffrance. Et pourquoi vous êtes de la même promotion? Les autres sont déjà, ils sont au gouvernement, ils sont au palais du peuple, ils sont députés. Mais vous, vous êtes très intelligent, mais vous semblez ne pas évoluer comme les autres. Et pourtant, peut-être en classe, vous étiez plus brillant qu'eux. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous pouvez chercher des boucs émissaires, mais ça ne sert à rien. Si vous avez tout fait, mais vous avez l'impression que, eh bien, vous n'en pouvez plus et que vous n'allez pas, vous n'évoluez pas comme les autres, Dieu seul sait, ça peut être une écharde dans la chair. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les mystères de la souffrance. Et Paul a vécu ça. Il faut lire 2 Corinthiens 12, de 7 à 10. Il faut toujours lire, revenir à ce texte-là. Lorsque vous êtes confronté à certaines épreuves et vous ne savez pas pourquoi, vous faites tout pour vous en sortir, mais ça vous colle à la peau, disait 2 Corinthiens 12, de 7 à 10. Mais ce qui est important, c'est que Paul qui avait les chardes dans la chair, ça peut être une maladie, ça peut être une souffrance, un fait qui le faisait souffrir, mais regardez le travail qu'il a abattu dans l'Église. La moitié du Nouveau Testament est paulinien. Vous avez 27 livres et 13 écrits de Paul. 13 écrits de Paul, 13 écrits attribués à Paul. Lui qui avait les chardes dans la chair. C'est ça le message qui nous est adressé. C'est que même si vous avez les chardes dans la chair, même si vous souffrez terriblement, peut-être une maladie ou bien une souffrance due à d'autres réalités de la vie, eh bien, vous pouvez faire ce que vous avez à faire comme travail et puis le faire très bien. C'est possible. Et c'est là que Dieu confond les intelligents et les sages. On s'est dit, mais il avait les chardes dans la chair. Et Paul avait un problème de santé, certainement, parce que Galates 3 en parle. Et même dans 2 Corinthiens 10, 10, on revient là-dessus. Donc, sa santé était fragile, mais il voyageait beaucoup, lui qui avait la santé fragile. Et puis, il a beaucoup écrit, lui qui avait la santé fragile. C'est ça le paradoxe paulinien, paradoxe de Paul, c'est que santé fragile, et charde dans la chair, mais il a fait, il a réalisé, du point de vue pastoral, ce qu'il a fait, c'est immense, plus que d'autres apôtres. Et c'est ça, en fait. Donc, vous pouvez avoir des problèmes, mais sachez que parfois, le Seigneur autorise ça, autorise que vous souffriez, pour que vous soyez témoins pour les autres. Parce qu'ils vont dire, mais comment il souffre, mais il réussit dans la vie. Il souffre, mais il va de l'avant. Alors, la deuxième question, c'est l'inceste, en fait. Malheureusement, apparemment, c'était fréquent à Corinthe. C'est une ville portuaire. Et comme ville portuaire, malheureusement, Corinthe était vraiment infectée du point de vue moral. Une ville très infectée moralement, c'est-à-dire que les gens vivaient dans une immoralité incroyable. Et voilà pourquoi il y a parfois ces choses-là. Évidemment, dans l'Église, on commence toujours par interpeller. Si Paul va dire, écoutez, il faut l'excommunier, c'est pratiquement, il utilise des mots comme anathème et autres, ça signifie que c'est une excommunication, qu'il ne vienne plus aux assemblées chrétiennes parce qu'il a fait un scandale. C'est sûr qu'on l'a interpellé, on lui a donné des conseils, mais il ne veut pas laisser. Alors on arrive malheureusement à ces cas-là, une excommunication.
Merci mon père, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie française. Merci également à vous de nous avoir suivis. Les questions sont restées, nous allons y revenir lors de la deuxième partie. Mon père, un dernier mot pour mieux terminer.
Joyeux Noël, joyeux Noël. Noël, c'est aussi tout ça. Pensez à tous ceux qui nous suivent dans l'est du pays, hein, là où il y a l'insécurité, là où il y a la guerre, tout ça. Mais c'est Noël. C'est Noël. Voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons déjà les martyrs de Saint-Étienne. Parce que Noël, c'est tout ça. Noël n'exclut pas, ne nous exempte pas de la souffrance, de la misère. Nous faisons avec. Parce que Marie elle-même, le jour de Noël à la naissance de Jésus, c'était pas aisé. Hein? Et l'enfant doit naître dans un local des animaux. Et puis les berceaux de l'enfant, c'est la mangeoire, là où les animaux viennent se servir. Voyez-vous, et c'était pas aisé. C'était pas facile pour Marie. Donc c'est comme si Jésus qui est né commence déjà à souffrir la passion. Donc cet enfant à peine né, on voit que c'est un enfant qui est venu souffrir. Et donc que Noël soit aussi un temps où certains sont éprouvés, certains vivent Noël dans des conditions difficiles, faisons avec. Ce qui est important, c'est que Jésus est né, c'est le commencement de notre salut. Merci.
Merci beaucoup mon père, un mot de prière.
Volontiers, nous allons implorer l'intercession de la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour que ce temps de Noël nous soit profitable. Elle qui avait accueilli Jésus dans sa vie pour nous le donner à Noël, qu'elle intercède pour nous pour que nous puissions aussi accueillir cet enfant qui vient de naître dans nos cœurs, afin que nos vies s'en trouvent transformées. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.